Bonsoir à toutes et à tous, Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Aujourd'hui, nous sommes le quatrième vendredi du mois. C'est donc la Fondation Copernic qui a investi l'émission Mode d'emploi. Au micro, Laurent et Mathieu, Claude aux manettes. Sans lien avec les soutiens droitiers de notre cher président, nous allons essayer ce soir d'être constructifs, puisqu'on s'intéresse à l'économie circulaire, à son fonctionnement théorique et surtout dans l'économie réelle, ses apports pour la société, les moyens de généraliser son déploiement dans tous les secteurs de l'économie. Donc ce soir, on va parler de déchets, de ressources, d'éco-conception, d'écologie industrielle, réutilisation, de réemploi et recyclage, les fameux 3 R. Pour en discuter, nous recevons ce soir Pascal Demey et Tristan Duhamel de l'association Zero Waste Paris. Et également Béatrice Bellini, qui est enseignante chercheuse en gestion à l'Université de Paris-Nanterre.
Donc sur cette première partie d'émission, on voulait aborder un peu le pourquoi de cette économie circulaire, c'est-à-dire quels sont aujourd'hui finalement les impacts, quelle est la réalité des pratiques en termes de consommation et des impacts de l'économie actuelle sur l'environnement, sur le prélèvement des ressources ou sur la production de déchets. Donc on voulait voilà introduire cette émission par cette question-là pour nos invités. Donc je sais pas, peut-être sur la question des déchets, Tristan ou Pascal.
Alors sur la question des déchets, la première question à se poser, c'est quand on jette quelque chose à la poubelle, qu'est-ce qui devient après ? Qu'est-ce qui devient après ? En France actuellement, en Île-de-France par exemple, dans le meilleur des cas, pour la poubelle non recyclable, il s'en va à l'incinérateur. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il est brûlé, il produit des gaz, il produit un reliquat qu'on appelle mâche-fer, à peu près 300 kg par tonne brûlée, donc c'est énorme, un tiers. Et il produit aussi à peu près une trentaine de litres.
Qu'est-ce qu'on en fait de ce mâche-fer après ?
Ce mâche-fer, on essaye de le revendre pour le mettre sous des routes, pour stabilisant sous les routes par exemple, donc pour aller imprégner petit à petit les nappes phréatiques. Et il produit également à peu près une trentaine de litres de résidus liquides puisque les fumées sont filtrées. Et ça, pour le moment, on ne sait pas encore vraiment quoi en faire. Donc on garde ça pour nos enfants, pour l'avenir.
À côté des déchets nucléaires, par exemple.
Par exemple, c'est enfoui dans des grottes, des caves, et vraiment, pour le moment, on ne sait pas comment on pourrait le retraiter. Donc on le garde, on ne sait pas si nos enfants seront plus malins que nous pour savoir quoi en faire.
Donc aujourd'hui, voilà, on va parler d'économie circulaire, d'avènement de l'économie circulaire. On est encore largement dans l'économie linéaire, hein, extraire, produire, consommer, jeter, sachant qu'à chaque étape, on jette aussi une partie, hein, dès l'extraction des matières premières, des ressources qui servent à produire. Déjà, on perd pas mal de matériaux en route. Hein. On en parlait tout à l'heure.
Oui, il faut savoir que quand on extrait, par exemple, dans une carrière, des matières premières, pour 100 kilos de matière extraite, on va utiliser seulement 10% en général de la matière recherchée. C'est-à-dire que le fruit de la recherche va être de 10%.
D'accord, ouais. Donc, et ça, c'est probablement un chiffre qui, finalement, après l'exploitation des meilleurs filons, risque de... Cette proportion risque de s'amenuiser. Peut-être... Oui.
En fait, on parle de ressources quand on extrait les matières premières. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est pas une ressource, c'est de la destruction. Si on va sur le plus stable, c'est-à-dire par exemple des pierres. On va casser des pierres pour fabriquer des maisons en pierre. Donc on casse des rochers. Si on parle du papier et du bois, qu'est-ce qu'on fait ? On va couper un arbre. Donc puiser dans les ressources, c'est détruire la nature, clairement. Quand on parle des minerais, c'est la même chose. On va aller creuser dans la terre pour ressortir tout ce qui est au fond de cette terre et le mettre sur la partie vivante de la terre qui pourra pas non plus produire à nouveau puisqu'elle sera complètement caché par ce sous-sol.
Et aujourd'hui, peut-être Béatrice Bellini, est-ce qu'on a une idée un peu de ces ressources, de ces réserves de ressources au niveau mondial? Est-ce que ça, c'est des chiffres que vous avez?
Alors, des chiffres, pas forcément.
D'accord.
Par contre, ouais. On sait qu'on n'a qu'une seule planète. Ouais. Aujourd'hui, nos modes de consommation ne sont pas très viables si tout le monde les adopte, en fait. Donc, il faut qu'on revoie nos modes de consommation. Et quand on évalue les différentes politiques qui sont adoptées aujourd'hui, on se rend bien compte que nos modes de consommation évoluent, mais peut-être pas à la vitesse où il faudrait qu'elles évoluent.
Par rapport à l'épuisement à venir des matières premières, même si on peut toujours discuter des dates qui sont prévues sur l'épuisement de chaque ressource, de chaque matière première, on sait bien que dans les 20, 30, 100, 150 ans, la majorité des matières qu'on utilise aujourd'hui dans tous les produits de la vie courante, de la grande industrie, un jour on va arriver à épuisement, et si on ne crée pas le modèle de réutilisation de ces matières, c'est sûr qu'on va avoir de gros soucis, et comme vous dites, encore plus quand les pays dits en développement, et c'est déjà en cours, commencent à adopter les modes de consommation des pays occidentaux.
Alors, ils souhaitent adopter effectivement les modes de consommation, nos modes de consommation. Et en fait, on les pousse aussi vers ces modes de consommation. On a des organismes internationaux, par exemple, la Colombie va rentrer dans l'OCDE. Une des conditions pour entrer dans l'OCDE, c'est l'augmentation de la croissance. Donc pour qu'ils aient une augmentation de la croissance, il faut une augmentation de la production des produits, une augmentation d'exportation de ces produits. Donc ça veut dire quelque part une augmentation des prélèvements sur les ressources pour faire ces produits. Et à aucun moment on a d'autres... On leur demande de réfléchir à un autre modèle. Donc c'est perturbant. D'ailleurs... Regardez la loi en France, c'est la loi sur la croissance verte. On parle toujours de croissance. Et je pense que c'est aussi important de parler d'un autre mode de croissance. En gestion, on s'interdit de parler de décroissance. Parce que décroissance, ça fait peur, ça fait très extrémiste, en fait. Et pourtant, c'est pas forcément, la décroissance n'est pas forcément liée à un bien-être moindre, c'est juste une décroissance des ressources, de la consommation de ressources. Et c'est vrai que je pense que c'est important, quand on parle de ressources, effectivement, on parle plutôt de destruction. Et en fait, changer le discours et évaluer d'autres types de modèles, ou dans tous les cas, je pense que c'est important justement de réfléchir sur nos modes de croissance.
Et ce qui est aussi caché, c'est aussi, enfin, que l'on voit pas, du moins, je veux dire, hein, c'est la consommation d'énergie que cela entraîne, notamment l'extraction, puis après aussi peut-être le traitement et le transport aussi de toutes ces matières. Juste un fait pour le cuivre, qui est une des matières les plus consommées aujourd'hui. En dehors des veines de cuivre actuelles, donc qui sont les plus riches, il faudrait aujourd'hui consommer toute l'énergie primaire que l'on consomme aujourd'hui au niveau de la planète pour extraire la même quantité de cuivre, une fois les mines actuelles épuisées. Donc on a aussi cet impact à prendre en compte dans cette économie linéaire. Peut-être une question sur les déchets. Quelle est un peu la production de déchets en France, peut-être par tête, pour qu'on puisse, ou par ménage, je ne sais pas, pour qu'on puisse un peu s'imaginer ce que ça représente.
Alors aujourd'hui, la production de déchets, c'est 350 millions de tonnes de déchets. Donc je dis bien de tonnes de déchets par an. Là-dessus, il faut voir qu'il y a à peu près 70% qui représentent la construction. Mais la construction, ça nous concerne tous, puisqu'on habite tous dans des maisons. On travaille dans des constructions. Et ensuite, il y a les 100 tonnes qui restent, sont à peu près un tiers sur l'industrie, un tiers sur le tertiaire et un tiers sur la consommation des ménages, c'est-à-dire 30 tonnes, grosso modo.
Ça donne une idée de, du potentiel de retraitement sur les déchets de chantier et déchets
30 millions
professionnels.
Voilà. Ouais. Et quand on ramène ça à une personne, en moyenne par jour et par an en France, on est à 600 kilos de déchets produits. Ça comprend tous les matériaux recyclables également. Tout ça, c'est pour une partie, c'est-à-dire les déchets verts, tout ce qui est recyclable, les gravats aussi occasionnels que le particulier peut avoir. Et l'autre partie de cette poubelle, donc 300 kilos, ce sont les ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire celles qui vont finir incinérées ou enfouies dans la terre, tout simplement. Quand on dit enfoui dans la terre, c'est des centres d'enfouissement, ce sont des décharges, ni plus ni moins, qui sont à ciel ouvert. Il y en a 230 en France et 126 incinérateurs. Donc c'est un gâchis phénoménal et on considère que sur toute cette matière, on pourrait réutiliser, modifier, à peu près éviter 80% de cette destruction.
D'accord. Ouais. Et en Ile-de-France, puisque bon, nous on émet en Ile-de-France, est-ce qu'on a une idée? Parce qu'en fait on les voit pas, c'est la partie un peu invisible. Une fois que le camion poubelle est passé, on sait pas où sont nos déchets, donc ils sont où, vous savez?
Alors il y a des belles cheminées qui se voient au niveau de Ivry par exemple. Tous ceux qui prennent le périphérique en voiture peuvent les voir tous les jours, qui font des grands panaches de fumée blanche. Donc ça, par exemple, c'est un des incinérateurs de la région parisienne qui va aller donc brûler nos déchets et produire des résidus toxiques et également des fumées, bien sûr, toxiques. Il y a également, après, c'est un peu plus loin et on les voit moins quand on est très parisien, on les voit pas du périphérique. Par exemple, en Seine-et-Marne, justement, des belles décharges sur lesquelles chaque jour, des camions viennent rajouter leur contenu. Donc les poubelles de certaines communes partent là-bas, ne sont pas brûlées, sont enfouies sous terre. Donc on imagine bien le plastique qui va aller polluer donc régulièrement la terre, mais il y a également des gaz qui sont émis parce que tous les déchets biologiques qui sont mélangés à ces plastiques, au lieu de se dégrader naturellement, mélangés au plastique, ils vont fermenter. Et donc ça produit du méthane, dont on sait bien que c'est un gaz désormais à la fois très toxique et très
un gaz à effet de serre, ouais.
Très puissant gaz à effet de serre.
Ouais. Tristan,
je voulais rajouter à propos de cet incinérateur d'Ivry qu'il arrive en fin de vie en 2020 et que c'est quelque chose qui est très peu connu, mais il est question de reconstruire un incinérateur qui sera, je crois, encore plus important, alors que tout converge vers une réduction des déchets. Et donc, il existe, ça va coûter 4 milliards d'euros. Si mes chiffres sont bons, c'est soit 2, soit 4, mais je crois bien que c'est 4. C'est 2. D'accord, donc c'est 2. Ça n'a un impact au niveau de l'emploi que très réduit. Et on va détruire des tas de matériaux. Zero Waste France a mis au point le plan BOM, qui est un plan qui vise à remplacer, à proposer toutes sortes d'alternatives qui permettent d'éviter de mettre en incinération ou en déchetterie, en centre d'enfouissement, les déchets afin de modifier le système.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée du taux de recyclage des déchets? Donc il y a la partie justement, voilà, éliminée quelque part puisqu'elle est enfouie ou elle est incinérée. Et il y a la partie qui va vers le recyclage. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui?
En Île-de-France, on a des très mauvais résultats au niveau du recyclage. Moi, j'ai entendu parler de 6% de déchets recyclés. Donc, ça veut pas dire
pas énorme.
C'est très peu. Ça veut pas dire qu'il faut pas, chacun de son côté, mettre les déchets dans la poubelle recyclage.
Au contraire.
il faut le faire parce que si on met tout dans la poubelle bleue, eh bien, tout sera incinéré. Par contre, il y a une partie, il faut le dire aussi, il y a une partie de cette poubelle recyclage qui n'est pas toujours, au niveau des industriels, valorisée comme il faut et qui part effectivement dans des incinérateurs pour être brûlée, tout simplement pour compenser tous les déchets humides, les feuilles de salade, les restes de repas, qui vont dans l'incinérateur et qui évidemment brûlent pas. Donc c'est à cause de ça, par exemple, qu'on est obligé de rajouter des cartons qui auraient pu autrement être recyclés. Donc au niveau du mouvement zéro déchet, nous ce qu'on préconise, c'est vraiment un tri à la source, multiplier chez soi le nombre de poubelles qu'on a pour mettre d'un côté le verre, d'un côté les piles, d'un côté les ampoules, d'un côté les papiers, d'un côté les déchets biologiques qu'on peut recycler en compost. Donc vraiment séparer tous les déchets à la source, c'est pas bien compliqué. Il suffit de mettre un contenant en plus et après on peut les valoriser par les filières les plus appropriées.
Avant d'aborder différentes solutions à toutes ces questions dans le cadre de l'économie circulaire, on va faire une première pause musicale avec Chinese Man Escape. Debating the destruction.
Fréquence Paris Pluriel à 25 ans.
C'est le bonheur rangé dans une armoire.
Mais on me l'a pas dit, je te jure, on me l'a pas dit. Ma parole, on vient de me l'annoncer là. Concert de soutien le 15 décembre à la Paroléon de Montreuil. En plus, tu sais pas où c'est, il faut que t'amènes 10 balles avec toi, mec.
Albert, tu parlais pas sérieusement.
Merde, prépare 10 balles.
Tu vois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic et aujourd'hui consacrée à l'économie circulaire avec nos invités Pascal Demey, Tristan Duhamel de Zero Waste Paris et Béatrice Bellini, enseignante chercheuse à la direction du département de sciences et gestion de l'université Paris-Nanterre. Juste avant de reprendre sur l'économie circulaire, on fait un point sur l'actu de la Fondation Copernic. Donc sur le site de la Fondation Copernic, vous retrouverez des éléments et la position de la Fondation sur la répression syndicale autour du syndicat Sud Éducation 93, avec notamment une plainte du ministère suite à des ateliers qui se sont tenus par le syndicat. Vous trouverez également une analyse de la politique économique d'Emmanuel Macron. Et des papiers sur l'état d'urgence.
On reprend sur l'économie circulaire. Béatrice Bellini, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, nous donner une définition rapide de l'économie circulaire et de ses différentes dimensions?
Oui, donc en fait, l'économie circulaire, par opposition à l'économie linéaire, c'est une économie dans laquelle on va avoir une consommation qui ne va pas forcément recourir à un prélèvement continu de ressources extérieures, donc un système de boucle fermée. Je pense qu'on le met... On pose souvent l'économie circulaire, on oppose à l'économie linéaire, puisqu'effectivement, l'économie linéaire, on va prélever des ressources, on va faire des produits, les consommer et les jeter ou les recycler. Donc, l'économie circulaire, normalement, c'est la boucle est fermée. Donc, on doit toujours utiliser la même ressource pour la même utilisation. Donc,
soit réutiliser, soit recycler dans d'autres produits.
Ben non, justement, en fait. L'objectif, c'est qu'on puisse toujours utiliser la même ressource pour le même produit, parce qu'après, souvent, on peut avoir une dégradation de la matière recyclée. Par exemple, au niveau d'un véhicule, On va recycler un pare-choc, ça va faire de la moquette. Voilà, après la moquette, on peut en faire un isolant phonique.
Et donc après, à chaque fois, il y a de la perte.
Et on a une perte qualitative de la matière. Donc l'objectif, justement, c'est de plus avoir de perte qualitative.
C'est peut-être plus dans le réemploi que le recyclage.
Bah dans la réutilisation, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'un pare-choc puisse être réutilisé en pare-choc. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas vraiment possible. Les modèles évoluent et on ne conçoit pas les pare-chocs pour qu'ils soient finalement réadaptés au nouveau modèle ou enfin voilà. Donc pour avoir une vision ou un système en boucle fermée, un des moyens, c'est que le fabricant reste propriétaire de sa matière. S'il reste propriétaire de sa matière, tout l'enjeu, ça va être justement.
Donc je sens qu'on va bientôt parler d'économie de la fonctionnalité. Là.
Ouais. Ça...
Tout à l'heure, vous disiez, vous aviez envie de revenir en amont, et tout à l'heure, on parlait à la source des déchets. Vous aviez envie de revenir sur l'éco-conception en amont de la production. C'est la première. C'est très systémique l'économie circulaire. On va aborder différentes dimensions, différentes étapes, mais voilà, vous vouliez commencer par là.
Oui, à la fin de la première séquence, on a parlé de l'importance de trier les déchets à la source. Et ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, la source du déchet, c'est quand même le produit. Et 80% des impacts d'un produit sont définis en phase de conception de produit. Donc c'est vraiment important d'intégrer les impacts environnementaux, mais aussi sociaux, dès la conception des produits.
Intégrer la fin de vie dès la conception.
Pas seulement que la fin de vie. Mais toutes les étapes du cycle de vie, puisque on ne peut pas que viser une optimisation de fin de vie si après, au niveau de la phase d'utilisation, ça engendre des impacts beaucoup plus importants. L'intérêt, c'est d'optimiser les impacts sur toutes les phases du cycle de vie du produit, dont la fin de vie, mais c'est qu'une étape.
Ok, très bien. Donc c'est intéressant cette idée-là. Si le fabricant reste propriétaire de ses matières, il va forcément chercher à maximiser leur utilisation et leur réemploi, réutilisation.
Et
est-ce qu'on a des exemples de ce genre de pratique?
En fait. Oui, je pense que aujourd'hui, alors on cite toujours l'exemple de Michelin qui ne vend plus, alors dans le domaine de l'aéronautique ou même dans le domaine des transports en commun, notamment pour les bus. Par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, Michelin vend ses pneus en fonction du nombre d'atterrissages. Enfin, il vend pas ses pneus, il vend le nombre d'atterrissages.
D'accord.
Un nombre d'atterrissages.
Donc après, il récupère le pneu, c'est ça?
Donc son objectif, c'est que le pneu dure très longtemps, soit résistant. Donc on n'a pas un objectif de vente de pneus comme vous, quand vous crevez, par exemple, vous allez chez le garagiste, vous lui demandez si on peut réparer votre pneu. Quel est l'intérêt du garagiste aujourd'hui de réparer votre pneu? Ça va coûter moins cher. Et en plus, quand il change votre pneu, il va changer le deuxième pneu. Donc non seulement il ne vend pas un pneu, mais il vend deux pneus. Donc
si
économique.
C'est pas quatre.
Voilà, donc c'est vrai qu'on a, et c'est là qu'apparaît finalement le modèle économique derrière, et le fait que quelquefois, on a peut-être des...
Et on sent que ça nécessite quand même un bouleversement de la conception de certains métiers, et qu'il y a des pratiques sociales derrière qui doivent évoluer, et que ça va mettre un certain temps.
En fait, c'est très intéressant cette notion de rester propriétaire du produit ou de la matière, parce qu'effectivement, on se rend compte, nous, au niveau de la gestion des déchets en particulier, qu'on est confronté à l'obsolescence programmée, à avoir un fabricant qui aura intérêt à ce que son produit ne soit pas durable pour pouvoir vous le vendre une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Parce qu'il aura été dégradé par son usage, tandis qu'effectivement, si effectivement il en reste propriétaire de la matière, il aura intérêt à fabriquer quelque chose de réellement durable et à vous vendre son utilisation et non pas le produit en lui-même.
Et il sera en plus responsable de du réemploi, de remettre l'objet en circulation après des pannes, enfin en tout cas de le réparer pour optimiser comme ça cet appareil. On voit ça par exemple avec les voitures à Paris qui sont les voitures électriques. Les voitures électriques, c'est un problème aussi par rapport aux batteries,
de ressources.
Mais
de déchets.
En attendant, on est vraiment dans l'économie de l'usage, de la fonctionnalité. On se retrouve avec une voiture personnelle, en général, qui reste fixe 80-90% du temps. Donc là, on libère de l'espace, on fait un matériel, qui va durer longtemps et qui va pouvoir, comme ça, servir à plusieurs personnes simultanément. Et le propriétaire sera responsable de l'objet.
Et aujourd'hui, avec on a vu là récemment l'appel des scientifiques sur le climat, ou enfin les alertes se multiplient. Est-ce que Béatrice Bellini, c'est des choses qui sont prises en compte dans les stratégies des entreprises, justement cet impératif qui finalement les concerne aussi, puisqu'elles menacent leur existence ou leur profit à plus ou moins court, moyen terme.
Alors, aujourd'hui, les modèles économiques auxquels doivent répondre les entreprises ne sont pas très vertueux, puisqu'on ne valorise pas du tout le capital environnemental ou le capital humain dans le bilan, dans le produit du bilan. Donc, c'est très difficile, par exemple, pour une entreprise, une direction responsabilité sociale ou développement durable, analysé par le directeur financier, ça reste une charge. Il n'y a pas forcément dans le produit quelque chose qui vient contrebalancer.
Avec l'augmentation des prix des matières premières, par exemple.
En fait, les prix des matières premières fluctuent. En ce moment, on sait que le pétrole cher. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est vrai qu'on a une chute du prix des matières recyclées, parce qu'en fait, les Chinois sont moins friands. Et donc, du coup, ça déstabilise les marchés. C'est sûr que la hausse du prix des matières premières va favoriser des modèles comme l'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire rester propriétaire de la ressource pour s'affranchir de la variation des cours. Donc ça, c'est vraiment très bien. Après, aujourd'hui, le prix des ressources sorties de mine ne sont pas calculées, ne sont pas au bon prix, en fait. Et donc, automatiquement, la ressource qui va être recyclée va être plus chère que la ressource sortie de mine pour certains minerais, parce qu'on n'intègre pas tous les coûts environnementaux, sociaux. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est difficile pour l'entreprise d'adopter des décisions et de valoriser économiquement des bonnes pratiques environnementales et sociales. Maintenant, effectivement, on a des entreprises qui investissent, on le fait, de plus en plus dans des mesures environnementales. Quand on analyse les rapports de l'Europe par rapport à l'état de l'environnement, tous les ans, c'est de pire en pire. Donc on peut se poser la question de l'efficacité, ou tout du moins la nécessité d'agir peut-être différemment ou de réviser les actions qui sont réalisées.
Alors à ce propos, est-ce qu'on peut dire un mot sur les objectifs de l'État sur la réduction des déchets ou des matières? Est-ce que ça, vous avez... Je vais en dire un mot, alors. J'ai préparé. La loi de transition énergétique nous donne quelques objectifs. Enfin, voilà, ça va vous donner matière à réagir aussi sur l'augmentation de 30% d'ici 2030 du rapport entre le PIB, donc la richesse produite, et la consommation intérieure de matière. C'est-à-dire que à richesse constante, il faudrait qu'on consomme 30% de matière en moins. C'est comme ça que je le comprends. Réduire de 10% entre 2010 et 2020 les quantités de déchets ménagers et assimilés. Donc là, je ne sais pas si on est sur la tendance. Recycler 65% des déchets non dangereux à 2025 et réduire de moitié la mise en décharge en 2025 par rapport à 2010. Alors ça, est-ce que c'est un peu hors de notre portée ou est-ce qu'on...
Est-ce que c'est comme l'objectif de réduction de la production de l'énergie nucléaire ou est-ce que c'est un peu plus atteignable,
Pascal?
En fait, la gestion des déchets, par exemple, se fait vraiment au niveau local. On a constaté quand il y a vraiment une volonté politique que 10%, c'est pas grand-chose. On arrive à faire beaucoup mieux que ça. Là, je parle donc de volonté politique. Après, on a aussi des prises de conscience au niveau du citoyen qui permettent là d'avoir vraiment un impact sur sa consommation. Quelqu'un qui va aller acheter ses produits en AMAP, qui va recycler ses biodéchets, qui va faire attention à ce qu'il achète, qui va acheter du vrac. On a vu une expérience avec un journaliste qui s'est lancé à fond dans le zéro déchet. Il a réduit sa production à 1 kilo par semaine pour sa famille. Là où on est, donc ça fait donc 52 kilos par semaine, par an. Là où on est à 300, quasiment 400 kilos par personne par an. Donc au niveau du comportement, c'est vraiment au niveau du comportement du consommateur qu'on peut avoir un impact très important et très rapide. Après, moi, je me fais souvent une réflexion. Je vois comment, par exemple, les chaînes de supermarchés ont changé leur fusil d'épaule en 10-15 ans pour investir les petits commerces, les markets, etc. Si vraiment, eux, avaient une volonté ferme d'agir, je pense qu'ils pourraient agir très rapidement sur une réduction des emballages, par exemple, sur des meilleurs conditionnements, sur des conditionnements plus adaptés.
La consigne aussi.
Sur la consigne, sur tous ces sujets environnementaux. Mais ils auront une action quand ils verront que le consommateur est intéressé et prêt à acheter différemment. S'ils sont passés sur des petits formats, c'est parce qu'ils ont vu que les hypermarchés étaient délaissés par le consommateur. Et là, ils ont réagi très vite. Donc, nous, on pense beaucoup au niveau local et au niveau du citoyen. Une action des citoyens, à mon avis, aura un impact beaucoup plus rapide que des lois, des incitations politiques.
Alors, moi, je voudrais être un petit peu optimiste par rapport à ça et préciser que, d'abord, le comportement individuel, il faut savoir que ça correspond à peu près à 25% du problème environnemental. Donc chacun, on a tous une marge tout à fait intéressante.
Ça, c'est important de le dire parce que ouais. on se déleste assez souvent de la responsabilité individuelle en matière d'environnement, puisqu'on se dit, bon, de toute façon, moi, si je fais ça, c'est qu'une goutte d'eau. Mais plusieurs gouttes d'eau, ça peut faire un tsunami.
Absolument. Il y a des mouvements, donc Zero Waste en est l'exemple même, où il y a une vraie dynamique. Y compris dans l'encouragement des professionnels à aller dans ce sens, dans le plaidoyer et dans la sensibilisation du public, il y a une vraie dynamique qui va dans ce sens. Et on peut voir que c'est tout à fait réalisable, comme Pascal le disait, avec des villes comme Capannori en Italie, qui est une petite ville pionnière qui a commencé il y a peut-être une dizaine d'années à peu près, et San Francisco. Ces deux villes, donc une petite ville italienne et une énorme ville américaine, ont réussi à diminuer leurs déchets de 80%.
Ah, donc on est ici sur des scénarios qui montrent que on a quand même des éléments en main qui peuvent nous permettre de... Voilà, divisé par 5, quoi, enfin, nos déchets. Donc, c'est un peu ce qui est visé pour vivre dans un monde un peu soutenable.
Et donc, a priori, ces deux villes-là, pionnières sur la gestion des déchets, ne sont pas passées par des lois, en fait. C'était des volontés politiques, c'est bien ça?
Oui. Tout à fait. Une première action qui est déjà très, très efficace. Là, on est revenu au niveau du particulier. Et pas des industriels, etc. Mais la poubelle des ordures résiduelles contient 30% de biodéchets. Ces 30% de biodéchets, c'est-à-dire en poids, ça représente donc un poids phénoménal. Ça ne brûle pas, puisque c'est composé...
C'est humide.
C'est humide. Allez brûler une peau d'orange, vous verrez bien. Et donc, quand on commence déjà à séparer les biodéchets, on peut faire du compost, on peut faire du gaz en faisant de la méthanisation, c'est-à-dire en enfermant dans un cycle les biodéchets. Ce gaz peut être directement réutilisé dans le système de gaz de ville et produire encore pour une tonne de déchets. On aura l'équivalent du chauffage de 200 douches et encore une tonne à la sortie d'engrais naturels.
D'accord, ouais. Ouais, c'est un exemple intéressant.
C'est compliqué ça de sortir les biodéchets de la poubelle ?
Ça n'est pas compliqué. Là, ça peut être. Il y a toutes sortes de choses. On peut le faire au niveau. Quand c'est organisé par la collectivité, il peut y avoir un ramassage, il peut y avoir un pesage aussi, qui permet de voir qui a besoin de payer en fonction, ce qui peut être une mesure incitative. Il peut y avoir des composts de quartier. Et il peut y avoir des composts, des lombricomposteurs, par exemple, qui sont des petits composts qui peuvent se mettre à la cave ou sur le balcon avec des petits verres spéciaux et qui vont se nourrir des biodéchets.
Très bien. Alors, on va poursuivre après sur les solutions. J'avais juste quand même un point à... je reviens un peu sur la notion de croissance dont on a parlé tout à l'heure, puisque, en fait... sur la question du recyclage, imaginons que même si on recycle 100% d'une matière, on peut se dire qu'on a réglé le problème, mais si on continue à connaître une croissance de cette consommation, finalement, si vous recyclez 100, mais que l'année prochaine vous avez besoin de 105, même en recyclant 100% de vos 100, vous avez encore besoin d'extraire 5. Et donc, ces matières sont toutes finies, et ce qui pose un problème, et même si on atteint des taux de recyclage important, si on continue d'avoir une croissance de la consommation de la matière première, on va vite arriver à son épuisement.
Donc, faut pas oublier le premier R.
Voilà, c'est ça. Donc, il faut effectivement réduire nos consommations. Et par exemple, si on a un taux de recyclage de 50%, ce qui est peut-être pas mal pour certaines matières, mais qu'on a une croissance du matériau de 3%. Du besoin du matériau de 3%, on va repousser la date d'épuisement de ce matériau de même pas 20 ans, d'une quinzaine d'années. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Il n'y a pas que la question du recyclage.
Béatrice Bellini, peut-être vous vouliez intervenir sur...
Faire une précision, justement, non. Le recyclage, c'est l'ultime solution. Tout le travail à faire, il est en amont, pour ne plus avoir... éventuellement qu'un peu de recyclage.
Ce qui est intéressant dans toutes les expériences qu'on a évoquées, c'est que bon, on voit que c'est très systémique, il y a différentes phases, et c'est très multi-acteur. Le consommateur, l'entreprise, les politiques publiques.
Alors, si on compare l'économie linéaire à l'économie circulaire, j'avais noté, c'est vrai qu'une ligne, c'est rectiligne et c'est infini, donc on se rend bien compte, ça c'est l'économie linéaire, c'est que l'infini, dans un monde fini, on voit bien le problème. Par contre, effectivement, le cercle, c'est une courbe fermée. Tous les points sont à égale distance du centre. Et autant dans une économie linéaire, on a des points qui peuvent être pivots, que dans l'économie circulaire, en fait, on a une sorte d'interdépendance, voire d'équité entre tous les acteurs de la filière. Donc, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, mais dans l'économie circulaire, il y a une restructuration de la filière. Et une entreprise pivot peut bloquer le fait de vouloir... un acteur pivot dans une filière peut bloquer le fait de rendre ce secteur circulaire.
Il faut de la coopération alors de la contrainte.
Oui. Et c'est vrai qu'on disait tout à l'heure, le consommateur est un acteur important. On peut citer la marque du consommateur avec l'évolution rapide de ses produits qui répondent à un besoin du consommateur. Au départ, on pensait que le consommateur n'allait pas mettre beaucoup plus cher que le prix de base. Et finalement, il exigeait des conditions environnementales et des conditions sociales. C'est vrai que ça s'est développé de manière très rapide.
Justement, vous parliez de filière, il y a une nécessité aussi de casser un peu les logiques de filière pour déployer plus largement l'économie circulaire, pour que des matières premières, des produits finis qui soient revalorisés passent d'une filière à l'autre. Si on reste strictement dans des logiques de filière organisées, il y a eu aussi une perdition du potentiel.
Si on raisonne en économie de fonctionnalité, l'objectif, c'est plus vendre une voiture, hein, mais c'est de la mobilité, et donc on va toucher tous les types de mobilité. Aujourd'hui, souvent, on dit « Ah oui, le problème, c'est la propriété. » Les jeunes ne sont plus attachés à la propriété. Ce qu'ils veulent, c'est une simplicité de mobilité. Les jeunes, là, les jeunes générations, ils veulent une accessibilité.
Sauf pour leur téléphone, quand même.
Non, ils sont pas du tout attachés à leur téléphone physique. Ils sont attachés aux données qui sont à l'intérieur, ce qui est totalement différent. Et si les fabricants de téléphones gardaient la propriété de leur téléphone, je pense que depuis longtemps, on n'aurait pas d'écran cassé sur notre téléphone. Et là encore, c'est vrai qu'il y a une filière qui se développe pour changer les écrans de téléphone avec de l'emploi. Mais c'est vrai que si vous voulez, on peut concevoir une filière une fonction. Donc on parlait le téléphone, la connectivité, la mobilité, de manière différente. Mais c'est vrai que ça nécessite une évolution quand même assez importante, une transition. Mais qui est amorcé par un certain nombre d'entreprises aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, on voit que quand même il y a beaucoup d'entreprises de l'économie sociale et solidaire qui investissent ce champ, mais qui sont des entreprises qui sont souvent quand même subventionnées. Donc comment ça s'explique ? C'est le prix des matières qui est pas assez élevé, c'est c'est la valorisation de ces métiers, la valorisation de la valeur ajoutée de ces métiers.
Je pense que la qualité sociale et la qualité environnementale du produit a une réelle valeur. Quand vous achetez un produit français, vous avez une qualité sociale garantie qu'on ne valorise pas forcément. On ne paie pas plus cher un produit. Enfin, si aujourd'hui ça commence à apparaître, voilà les Made in France, etc. Et je pense que souvent, le social ou l'environnemental est vu comme une contrainte. À l'international, c'est une réelle valeur par rapport aux produits. Les entreprises françaises ont bien sûr des contraintes, mais derrière, ça garantit en fait une qualité sociale qu'on ne met pas souvent en avant par rapport au prix du produit. En fait, le problème, il est là. C'est qu'on va développer une qualité, des bonnes pratiques environnementales, des bonnes pratiques sociales, et il ne va pas forcément y avoir un lien avec le produit et son évaluation de la qualité, et sa qualité environnementale et sociale. On va
alors
pas forcément
il faut l'introduire c'est au rôle de l'État d'introduire ces externalités
Pas forcément, parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, le consommateur, il s'oriente naturellement vers ce type d'exigence. Donc, vous voyez, par exemple, et si l'entreprise voit qu'il y a un marché, de toute façon, elle y va. Donc, en fait, c'est simplement des mécanismes économiques classiques.
Je pense aussi que c'est pas évident d'oser changer de modèle, parce qu'effectivement, une entreprise qui vend des télés, par exemple, se dire tout à coup, je vais cesser de vendre mes télés, je les propose à la location, mais je les vendrai plus. Dans quel état est-ce que je récupérerai mes télés ? Est-ce que le consommateur est prêt ? C'est quand même se lancer dans une grande nouveauté, à mon avis.
C'est souvent des nouvelles entreprises qui se créent.
Et aussi, on a besoin de nouveaux types de produits assurantiels et bancaires. Parce qu'effectivement, si moi, je ne vends plus mes télés, mais que je vends leurs fonctions, je garde la propriété donc de mon matériel, et les systèmes doivent évoluer. Par exemple, pour une voiture, si je reste propriétaire de la voiture, que se passe-t-il par rapport à l'assurance de cette voiture ? Quelle est ma responsabilité ? Donc en fait, et aujourd'hui, notamment dans les pays en développement, il faut réfléchir à ces nouveaux produits dont vont avoir besoin en fait les entrepreneurs qui souhaitent être responsables, parce qu'on a un gros enjeu par rapport à ça.
On peut faire référence justement à des objets qui sont évolutifs. Et on a des exemples tels que le Fairphone, par exemple, qui est un téléphone hollandais, je crois, qui a été conçu pour être... Il y a une dizaine de pièces à l'intérieur et elles peuvent être toutes interchangeables en fonction du... Si jamais elles cassent, peut-être qu'elles se réparent, ça, je ne suis pas rentré dans le détail. Mais en tout cas, elles peuvent évoluer à une vitesse raisonnable. Parce que quand on a un téléphone nouveau tous les 6 mois dans une marque, on est évidemment dans une obsolescence programmée terrible. Et on a d'autres exemples comme une machine à laver le linge qui s'appelle l'increvable, qui est en train de se mettre en place et qui, sur le marché, dont le but c'est de pouvoir durer 50 ans.
D'accord, ouais. Mais bon, c'est vrai que la limite aujourd'hui, c'est que le Fairphone coûte très cher, quoi. Enfin, à part une marque.
Maintenant, il est en location.
Ah, il est en location, d'accord.
Avec une marque de téléphonie.
Je sais que c'est pas simple. Tout à l'heure, on parlait des pourcentages du recyclage. Est-ce que vous pouvez donner une idée du poids de l'économie circulaire dans l'économie réelle actuelle? Estimation, en tout cas.
Pour moi, l'économie circulaire, c'est pas l'économie du recyclage, en fait. Donc
Non, bien sûr, mais je disais ça juste parce que tout à l'heure, c'est peut-être plus facile de donner un pourcentage du recyclage que le pourcentage du poids réel de l'économie circulaire dans l'économie globale. C'est ce qui m'intéressait. On peut l'estimer en termes d'emploi, en termes de pourcentage du PIB. Est-ce que vous avez des notions comme ça pour les auditeurs, pour se rendre compte ce que ça représente aujourd'hui? Parce que là, on a parlé de plein d'initiatives, mais finalement, sur l'ensemble de l'économie, on en est où? Qu'est-ce que ça représente?
Alors,
encore du chemin à faire, j'ai l'impression.
Oui, et puis c'est très intéressant. Vous nous parlez d'indicateurs, de PIB, etc.
On en manque.
Alors, en fait, c'est surtout que pour évaluer une économie circulaire, on ne peut pas utiliser des indicateurs qui ont été faits pour une économie linéaire. C'est très difficile. C'est très difficile de mettre un cercle.
Ouais,
voilà, on a une droite qui passe par 4 points. C'est très difficile de faire, voilà, de faire passer ce cercle par les 4 points. Et en fait, on est bloqué à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on dit, mais non, l'économie circulaire, c'est pas rentable. Bah non, c'est pas rentable avec le mode
de réflexion
et les indicateurs d'évaluation de l'économie linéaire, en fait. Aujourd'hui, en gestion, on n'enseigne pas l'économie de fonctionnalité. Quand vous n'achetez plus une machine et que vous voulez en acheter l'usage, c'est plus de l'investissement. Donc en fait, on a des changements de ligne budgétaire qui vont impacter directement vos résultats. Enfin voilà. Donc
on voit que ça touche même jusqu'à la comptabilité.
Bah oui.
À l'appréhension même de la réalité.
Voilà. Et c'est vrai que on peut être surpris que aujourd'hui, dans les cours de comptabilité, on n'aborde pas forcément ces nouveaux modèles d'affaires plus virtueux et on reste un petit peu dans une économie classique. Donc plus je vais vendre. Plus je vais avoir de...
On va faire un tour de table parce que l'émission touche bientôt à sa fin. Mais quelles sont selon vous les mesures à l'échelle individuelle et à l'échelle politique qui pourraient favoriser la généralisation de l'économie circulaire et faire que ça représente pas seulement une part marginale de l'économie, mais que ça devienne dominant?
J'ai envie de dire une chose, c'est que... j'ai bien l'impression que Arnaud Montebourg, quand il était ministre, a réussi à mettre au goût du jour, à remettre au goût du jour le Made in France. C'est vraiment mon ressenti et j'ai l'impression que depuis, le Made in France a explosé, c'est-à-dire la valeur qu'on y trouve. Donc c'est le poids politique a un vrai impact aussi. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on dit souvent les 3 R, on n'en a pas beaucoup parlé, on a été assez rapide là-dessus. Grosso modo, on est sur réparer, réutiliser, recycler, mais on peut aussi ajouter évidemment repenser, c'est-à-dire l'éco-conception, réduire, refuser et refuser tout ce qu'on nous donne, par exemple, et dont on n'a absolument pas besoin.
Ce qui est important dans cette période de fin d'année, et puis avec ce vendredi noir de la consommation.
On parlait tout, avec cette période de fin d'année, justement, effectivement, on rentre dans une période de surconsommation. On a parlé de la planète qui était effectivement finie, avec des ressources pour 2017 dont on a déjà tout consommé à peu près à la mi-août. Et on parlait tout à l'heure de d'oser se lancer dans des nouveaux schémas à titre individuel. Moi, je pense que on peut tous faire un effort pour les fêtes de Noël qui arrivent en pensant à des cadeaux responsables, des cadeaux qui consomment pas beaucoup de ressources, des cadeaux qui même aident au recyclage ou qui soient eux-mêmes recyclés ou réemployés. Ça peut être des cadeaux faits soi-même, avec une grande valeur sentimentale pour la personne qui le reçoit. Ça peut être des moments ensemble, un concert pour des jeunes, un zoo avec des enfants, du temps passé, un week-end offert à une grand-mère, par exemple. Et ça peut être enfin des cadeaux d'occasion. C'est pas encore dans les usages, mais quand on achète un cadeau d'occasion, on fait un geste pour la planète. Et puis, ça coûte moins cher, on peut aussi acheter quelque chose de plus gros. Ça touche aussi au portefeuille quand on fait un geste pour la planète, en général, il y a une contrepartie imprévue, plutôt positive.
Après, peut-être aussi une diffusion d'autres normes de consommation. Quand on parle de vendredi noir de la consommation, noir, c'est pas très positif dans le langage français. Et en fait,
c'est étrange comme terme marketing. Ça,
bah non, mais c'est les Américains. Mais en fait, vendredi noir, non, tu t'es quand même pas fait avoir. Enfin, vendredi noir, moi, ça me donne pas envie d'acheter, quoi. C'est vendredi noir, c'est noir pour voilà.
Ça rappelle un jeudi noir, par exemple.
Et effectivement, c'est là qu'on voit les limites de l'exportation de certains modèles, en fait. Je pense que, et pour terminer, c'est vrai que la France a une culture particulière, on a des valeurs particulières qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, je pense, et on a un réel rôle à jouer dans une diffusion d'un modèle plus vertueux, plus social, et pour le bien-être de tous sur la Terre, voilà.
Voilà, on a réussi notre objectif d'être plus positif qu'à d'habitude.
Donc l'émission touche à sa fin, donc ce week-end, n'oubliez pas de ne pas consommer. Vous pourrez bientôt réécouter cette émission. Ouais, on peut quand même. Pas de viande, mais en podcast sur le site www.fondation-copernic.org. Donc le prochain terme de notre émission animée par la Fondation Copernic, ce sera le 23 décembre, donc juste avant Noël, et portera sur l'accessibilité de la ville pour tous, enfants, personnes âgées, handicapées. Voilà, bonne soirée à tous et on finit en musique par Gasoline ou Ratatat, on sait pas trop. On remercie en tout cas nos invités, Tristan Duhamel, Pascal Demey, Béatrice Bellini.
Ce sera Ratata.
Merci.
Merci. Cream and Chrome.
Décembre, le mois FPP. Plusieurs rendez-vous vous sont proposés pour venir soutenir la radio. Donc 10 décembre, à partir de 17h, soirée de soutien à Fréquence Paris Pluriel avec projection de petits films contre le grand capital de Nina Faure et Julien Brigaud et suivi d'une soirée concert avec Luli and the Surfing Rogers, The Mercenaries et Diego Palavas, punk rock assuré au CICP 21 Terre rue Voltaire, dans le 11e métro Nation, et le PAF, c'est 5 euros. We'll be right back.